Vous écoutez
RMC. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
On est de retour dans Estelle Midi à la radio sur RMC, à la télé RMC Story, canal 23 de la TNT. Nous sommes ensemble jusqu'à 15h. Il y a Charles Magnin autour de la table. Il y a également la journaliste à l'incorrect Juliette Briens, l'ex-avocate Yael Mellul et l'économiste Pierre Rondeau. Dans un instant, le zapping, le meilleur de l'actu sur RMC. On parlera ensuite de Gabriel Attal, qui se dit favorable à la GPA, la gestation sur autrui. Mais est-ce qu'il faut ouvrir le débat sur la GPA ou est-ce que c'est encore tabou? Eh bien, écoutez, vous nous dites tout, on en débat ensemble à 13h30. Vous nous appelez au 3216, vous réagissez sur le WhatsApp.
Le 0612 424 424, c'est le numéro sur WhatsApp pour tous vos messages qu'on lit en direct.
Et puis, à 14h, on parlera du renouveau de la cigarette chez les stars. On voit de nombreuses stars avec une cigarette. On en voit également dans les films et les séries. Est-ce qu'il faut interdire le tabac dans les films et les séries? Ben justement, ce sera notre question de 14h. Dites-nous si ça vous gêne, par exemple, que vos enfants voient des acteurs en train de fumer dans des films ou des séries, ou que non, bah ça fait partie du cinéma tout simplement. On en débattra en tout cas à 14h.
RMC, Estelle Midi.
Le zapping RMC.
Le meilleur de l'actu sur RMC et on démarre tout de suite avec Apolline Matin. Ce matin sur RMC, faut-il interdire le vapotage dans les espaces sans tabac? Selon un récent sondage commandé par la Ligue contre le cancer, 7 Français sur 10 sont favorables à cette interdiction du vapotage. Et pour le directeur de la prévention de la Ligue contre le cancer, Emmanuel Ricard, cette mesure est nécessaire pour invisibiliser la cigarette électronique chez les jeunes.
On a en fait deux types de publics. On a les fumeurs, pour qui la cigarette électronique peut être un moyen pour soit substituer la nicotine sans les effets de la cigarette, soit faire le sevrage. Par contre, on a une population qui est la population jeune, qui de plus en plus consomme. Les derniers chiffres sont 9,5% fume ou vapote. La crainte qu'on a, c'est qu'on soit en retard d'une guerre et que ce qu'on a gagné sur la cigarette classique, on est en train de la perdre sur le vapotage.
Yael Mellul, vous qui avez arrêté de fumer et qui vapotez désormais, est-ce qu'il faut interdire le vapotage dans les espaces sans tabac?
Ben non, en fait, je veux dire, c'est pas, il va y avoir du vapotage quoi massif. Hein, c'est quoi le concept
attends,
en fait
pour l'instant.
Oh mais enfin,
on a pas assez de recul pour savoir s'il y a vraiment du vapotage.
Tous les grands fumeurs qui ont réussi à arrêter de fumer grâce au vapotage, enfin je veux dire, on va pas en plus maintenant leur interdire ça. Enfin je veux dire, ça n'a aucun sens.
Chez vous.
Ben oui, mais je vapote chez moi, je vapote dans la rue, je vapote sur les terrasses de café. Donc ça veut dire que sur les terrasses de café, ça va être interdit aussi.
Bah, non, on a le droit de fumer encore sur les terrasses.
Mais ils veulent l'arrêter.
Ouais, mais ils veulent l'arrêter. Donc, je veux dire, alors, c'est interdit
c'est,
sur
c'est dans vis-à-vis les des jeunes là. C'est ça, c'est de dire aux jeunes ouais. Attention là.
Mais alors qu'on interdit. Oui, mais alors
les jeunes ils te voient vapoter, ils disent ah oh, si je faisais comme Yael Mellul.
Ouais, bien sûr. N'importe quoi. Mais qu'on interdise la vente, voilà, aux jeunes. C'est tout. C'est aussi voilà
qu'on interdit. Non,
parce que moi, c'est une aide absolument considérable pour les gens qui arrêtent de fumer.
Pour Yael ou pour moi, c'est un outil de sevrage.
Mais vraiment, enfin, je veux dire.
Alors qu'il y a des jeunes aujourd'hui qui rentrent sans être passés par la cigarette directement.
Ah bon? Je connaissais
quelqu'un qui était passé par RMC qui m'avait avoué avoir il est devenu dépendant à la nicotine via la vapoteuse. Il n'avait jamais fumé.
Il ne fumait pas, il s'est mis à vapoter.
Il n'a jamais fumé de cigarette de sa vie.
Oui.
Il a commencé par la vapoteuse, il est devenu dépendant à la nicotine.
L'odeur est quand même sympa. Moi, quand je vois quelqu'un vapoter, barbapapa, moi qui ne fume pas.
Je peux témoigner, Yael a un parfum tabac. Ça, je ne comprends pas.
Bah oui, mais parce que c'est
du sevrage. Non,
mais parce que c'est le sevrage.
Pas pendant 20 ans.
Bah oui. J'ai besoin d'avoir ce goût de tabac, quoi. Voilà. Pour moi, c'est absolument médical.
Vous qui ne fumez pas, est-ce que vous y êtes favorable?
Ce serait mentir de dire que je ne fume pas. Je suis un fumeur de soirée. Mais j'y suis. Alors, je comprends.
Vous avez tous les vices.
Moi, je serais plutôt partisan et je rejoins Yael là-dessus sur l'interdiction. Il faut rappeler qu'en Angleterre, par exemple, ils ont interdit la vente de tabac pour toutes les personnes nées à partir de 2010.
Oui, on va voir comment ça se.
Tout, donc il n'y aura plus, eux, leur objectif, c'est que les futures générations ne fument pas et ne vapotent pas. Ça, à la rigueur, oui, quand on a des gens qui sont en sevrage et veulent arrêter de fumer, je peux comprendre qu'on leur donne l'opportunité de pouvoir arrêter via la vapoteuse, mais les jeunes qui commencent et qui commencent par la vapoteuse, oui, c'est absurde.
Ça devrait même être remboursé par la sécu.
Tu vas arriver vers quelqu'un déjà, pour le verbaliser,
il faudrait que les buralistes appliquent la loi, et aujourd'hui en France, officiellement, la vente de tabac est interdite aux mineurs.
Oui, mais tu as des vapoteuses sans nicotine, donc en fait...
Et la même manière, à quoi ça sert?
C'est
bon sevrage. Mais j'imagine. Pour les adultes, oui. Mais oui. Quand les jeunes ont des vapoteuses parfum Barba Papa ou Fruit du Dragon. Mais
parce que c'est sympa.
Ça sert.
Le goût est sympa.
Mais prenez un bonbon, je sais pas. On me dira le sucre.
Voilà. Juliette Brien, vous aussi, vous.
Ah, bah non, mais laissez-nous tranquilles. Puis de par pitié, en fait. On a enfin trouvé le truc qui faisait arriver.
Vous aussi,
en
vous vapotez.
Bien sûr, j'ai arrêté de fumer grâce à ça.
Oui. Ah, mais je ne savais pas.
Mais ça fait arrêter les gens en masse. C'est une révolution, ce truc. Donc moi, je vis tellement mieux. Toute ma vie a changé grâce à ça. Laissez-nous vivre. Enfin,
pourquoi vous arrêtez pas?
C'est pas ma faute si les jeunes se mettent dedans. Les jeunes se mettent dans tout type de dinguerie, que ce soit interdit ou autorisé d'ailleurs. Enfin, donc je sais pas quoi dire. Moi, j'aimerais juste qu'on nous lâche, en fait.
Est-ce que vous essayez d'arrêter le vapotage?
Ah non. Je vais m'y mettre un jour. C'est pas le moment là.
D'accord.
Bon. J'ai d'autres priorités.
Ok, passons.
Ma mère adorerait que j'arrête.
Oui, écoutez.
Mais je vais le faire, mais c'est pas le moment. Voilà.
Appelé matin, non, c'est les GG maintenant, ce matin sur RMC. Peut-on encore faire la fête sans incident en France ce week-end? Lens, après sa victoire en Coupe de France de football, et Bordeaux, après le deuxième sacre de l'UBB en Champions Cup de rugby, ont connu des scènes de liesse et de joie populaire sans, il faut le signaler, aucun débordement. Alors pourquoi est-ce que c'est possible à Lens ou à Bordeaux et pas à Paris? Écoutez les explications de Jean-Loup Bonamy, le prof de philo des GG.
Ah. La violence, elle est culturelle. T'organises un événement avec des centaines de milliers de personnes au Japon, tout va très bien se passer, parce que il n'y a pas cette culture de la violence. T'organises un événement avec beaucoup moins de monde dans d'autres endroits, ça va très mal se passer.
Et
parce que
endroits?
Parce que il y a culture de la violence. J'y viens. Et après, si tu zoomes au niveau de la France, tu vois que pourtant, dans une ville qui est très populaire, parce que le niveau de revenu, il est pas très élevé à Lens, tu vois que à Lens, il y a pas, dans le club de Lens, qui est un club justement très chaleureux, très convivial, très fraternel, avec un bon esprit, c'est un état d'esprit bon enfant, t'as pas les problèmes de violence que tu peux avoir au PSG, par exemple. Donc, quand tu zoomes à l'intérieur d'un pays, tu vois la différence culturelle entre la culture du club Lens, ou la culture du rugby par exemple, et la culture du PSG, avec des phénomènes d'ultra qu'on connaît depuis plusieurs décennies.
Pierre Rondeau, comment ça s'explique ça, que justement il y a eu des incidents à Paris et pas à Bordeaux et à Lens?
Révélé par la préfecture et repris par la mairie de Paris, en l'occurrence les incidents à Paris concernaient les supporters niçois qui montaient à la capitale.
Bravo,
pour,
Charles.
Et je dis les termes, foutre la merde. D'ailleurs, il y a beaucoup de liens et de connexions entre les ultras niçois et des mouvements d'extrême droite. Et ils l'ont dit, et ça a été déclaré, ça a été enquêté, ça a été sourcé. Certains venaient pour se faire, et je dis les termes, du Parisien. Ils voulaient vraiment taper des gens gratuitement.
Et je ne sais pas si on peut employer le terme supporter d'ailleurs pour les gens qui vont au stade.
Et on est entièrement d'accord. Ça ne concerne pas les vrais supporters niçois. Là, ça concerne des ultras politisés qui n'ont rien à voir avec le football. Ils auraient pu supporter du curling, du hockey, du volley, n'importe quoi. C'est des mouvances qui sont politisées.
Mais Pierre, quand le PSG se qualifie en Ligue des Champions, il y a le lendemain les gens saccagés, des expositions.
Je n'essentialise pas.
Quand Lens gagne une Coupe de France le lendemain, la ville de Lens, c'est pas.
Et je n'essentialise pas. Je ne réduis pas ça aux supporters de foot. Évidemment, les Lensois, ça se passe très bien. Au rugby, les Bordelais, ça se passe très bien. Là, en l'occurrence, il doit y avoir des milices. Quand je parlais d'extrême droite côté niçois qui foutent le bordel, très certainement du côté du PSG, il doit y avoir des milices d'extrême gauche qui vont aussi foutre le bordel.
C'était l'extrême gauche là le soir de la Ligue des Champions qui est venu tout casser.
Pas d'extrême gauche, mais des gens qui ont une incointance avec un certain bord politique. On va pas se voiler la face en considérant que LFI a un rapport.
Oui, mais alors pourquoi c'est politisé à Paris et pas à Lens? Je veux dire, à Lens ils sont politisés aussi, je comprends pas en fait.
Alors il y a une culture club, il y a une culture foot, il y a une culture Lens a une affinité très particulière avec l'esprit sportif et le football, ce qui n'a pas lieu d'être à Nice. Il y a certains entre guillemets supporters ultra niçois qui viennent surtout pour s'afficher et afficher des symboles politiques à Paris aussi avoir une explication
pourquoi
sociologique.
Pourquoi à Paris quand on gagne il y a des voitures pétées des lacrymos de
je vais avoir une explication
avec la police dans la rue.
Je vais avoir une explication profondément sociologique très certainement islamo-gauchiste mais quand à Paris on a aussi une très forte communauté qui vient de banlieue qui vient à Paris et qui vient à Paris pour foutre le bordel et faire leur intéressant parce qu'ils n'ont pas les choses, ils n'ont pas cet accès, ils viennent vraiment, les gens de banlieue viennent à la capitale pour foutre le bordel, pour faire leur intéressant. Parce qu'ils ont un sentiment de déclassement. Parce qu'ils éprouvent un sentiment d'abandon, parce qu'ils vivent dans la pauvreté en permanence.
Oh,
parce qu'il y a l'abandon aussi dans ces.
Lens, c'est pas une ville riche, et les abords de Lens, c'est certainement pas très riche.
Ce qui est sûr, c'est qu'en Ile-de-France, il y a un niveau d'inégalité qui est extrêmement important entre le 16e arrondissement de Paris et la porte de Saint-Cloud et les banlieues avec très fortes inégalités. Ça a été documenté pendant les émeutes, ça a été documenté par les sociologues. Le sentiment de déclassement et le éprouver cette inégalité entre Paris, la capitale, et les banlieues parisiennes provoque ce sentiment de déclassement et cet énervement qui se traduit par des débordements.
Juliette Briens, je vous ai senti agacée en écoutant Pierre Rondeau.
Non, mais je trouve ça insupportable, cette culture de la victimisation là, qui va aller justifier les comportements de certains qui viennent tout casser, tout ruiner parce qu'ils ont la haine de quoi ? Ils vont à l'école de la République, je veux dire, bien sûr qu'ils sont moins favorisés que d'autres enfants qui sont nés sous une meilleure étoile. C'est pas une raison pour tout casser, il y a des pauvres partout en France. Il y a pas que des pauvres dans les banlieues. Il y a pas que des pauvres dans les banlieues. Il y a des grandes misères en périphérie qui n'ont rien à voir avec les banlieues et ça ne pousse pas les jeunes à aller brûler des voitures, à aller casser et caillasser des flics. Donc
c'est injustifiable, on est d'accord.
Là tu justifies en fait.
Oui, mais c'était pas
ce discours-là, je pense qu'il est mauvais pour tout le monde, même pour ces jeunes en question, parce que à force de leur dire mais vous inquiétez pas, c'est la société, c'est parce que vous êtes pauvres, c'est parce que vous êtes discriminés, mais ils n'ont aucune raison en fait d'arrêter un jour, puisqu'il y a toute une partie de la classe politique qui vient leur dire oui mais quand même c'est normal, les émeutes c'est normal que vous soyez en colère. Il y a rien qui vient justifier ce genre de comportement. Donc c'est une
le
question
sentiment
de population.
Le déclassement et d'inégalité peut-être expliquer.
Il y a des ultras qui sont liés à l'extrême droite. D'ailleurs, il y en a qui ont été arrêtés il y a pas longtemps. Ça n'empêche que les lendemains de matchs de PSG, quand les Champs-Élysées se retrouvent dévastés, c'est pas l'extrême droite. Enfin,
quand les niçois, certains niçois et certains ultras niçois. Non mais si.
On a des yeux, on a des oreilles.
Ça a été documenté. Non, ça a été documenté.
C'est pas l'extrême droite qui vient sur les champs.
Bien sûr que non, mais certains ultras niçois venaient pour taper du Parisien.
Ultras d'extrême droite, je m'en fous complètement de ces gens. Ils sont tout aussi insupportables. C'est dérisoire quoi quand on parle d'un lendemain de match du PSG de parler de ça. Voilà.
Le Morning RMC présenté par Élise Dangean et Victor Pourchet du covoiturage entre femmes, bonne ou mauvaise idée. 87% des femmes ont déjà été harcelées dans les transports en commun. Certaines redoutent de les utiliser, voire arrêtent totalement de les prendre. Un sentiment d'insécurité qui a poussé Camille Cotard à créer Drive Lady, un site de covoiturage réservé aux femmes. C'est ce qu'elle expliquait ce matin sur RMC.
Aujourd'hui, c'est une web application disponible sur le lien app-drivelady.fr. On s'y inscrit. Donc, nous, on vérifie les profils avec les cartes d'identité et permis de conduire pour celles qui souhaitent donc proposer des trajets. Et ensuite, on peut donc proposer tout type de trajet. On va avoir du covoiturage classique et du covoiturage événementiel où nous, on va mettre en avant donc des lieux événementiels, donc des zéniths, des festivals, des boîtes de nuit pour que toutes les participantes puissent donc organiser leur trajet.
Donc, c'est vraiment de la mise en relation. Est-ce que c'est gratuit ou c'est payant ?
Alors donc c'est du partage de frais, donc du covoiturage, la passagère va donc payer une partie du trajet et une faible commission donc pour que chaque femme puisse rentrer sereinement. On a plus de 600 membres principalement normandes actuellement. Mm-hmm. On a un peu de tout type de profil, on a beaucoup de jeunes entre 18 et 35 ans, mais on a également beaucoup de femmes entre 40 et 60 ans où là ça va être plutôt pour des longues distances.
Yael Mellul, vous qui avez une association féministe, vous trouvez ça absolument génial, ce covoiturage entre femmes, ou alors regrettable d'en arriver là ?
Je trouve pas ça génial du tout. Je trouve ça d'une grande tristesse, en fait. On s'est battu pendant des décennies pour parvenir à la mixité. C'est quand même une grande avancée de notre République. Pour en revenir aujourd'hui à devoir, pour certaines, se sentir en sécurité qu'entre femmes. C'est comme la proposition qui a été faite en son temps de faire des wagons dans les métros que pour femmes, dans les trains. Enfin, je veux dire, c'est complètement hallucinant quand on y réfléchit froidement de se dire que on ne peut être en sécurité que lorsqu'on est entre nous. Enfin, je veux dire, c'est pas comme ça qu'on, de toute manière, ce n'est pas comme ça qu'on va régler la violence.
Mais vous, si vous avez le choix, par exemple, entre un blablacar classique et un drive lady avec, avec une femme comme chauffeur, vous prenez quoi?
Alors déjà, moi, j'ai déjà
blablacar. Je savais que vous alliez me dire ça.
C'est mais, pas possible.
Mais admettons, vous êtes obligé.
Ah non, mais moi, je suis une grande consommatrice de des VTC. Je n'ai jamais eu aucun problème. Je suis toujours tombée sur des chauffeurs absolument charmants.
Vous n'auriez pas tenté un jour à 3h du matin, oui, vous avez le choix?
Bien sûr que ça arrive. Je veux dire, de la même manière qu'il y a des violences intrafamiliales qui vont se dérouler dans le huis clos du domicile familial à l'abri de tous les regards.
Enfin, je veux dire, mais ça, tu ne peux pas le contrôler.
Enfin, je veux dire,
non, mais Yael, la question. Oui, mais le soir à 3h du mat, vous avez le choix entre un chauffeur VTC homme et un chauffeur VTC femme. Vous prenez lequel?
Mais dis-le. Tu réfléchis, mais dis-le.
Franchement, votre fille est en soirée. Voilà. Et elle vous dit, je vais rentrer, je vais prendre un VTC. Est-ce que
non, je vais la chercher.
Non, mais vous pouvez pas aller la chercher. Vous envoyez un VTC, et bah, forcément, vous allez vous dire, tiens, ma fille sera plus en sécurité avec une femme, et c'est humain. Si les hommes n'étaient pas des porcs, la question se poserait pas. Le problème, c'est que.
Et oui, il y a.
Faut pas s'en prendre aux femmes qui organisent ça.
Et oui, il y a des histoires glauques de VTC hommes qui ont pris avantage de, surtout de jeunes femmes en état d'ébriété la nuit, hein, on va pas se mentir. Donc forcément, si t'as pas envie de te poser de questions sur sa sécurité, etc. Voilà, j'imagine que pour le covoiturage, c'est exactement pareil. Après, t'es pas à l'abri de tomber sur une connasse. Hein.
Genre,
non, mais c'est
pas
parce
que monter dans un blablacar,
le covoiturage va super bien se passer.
Oui, mais monter dans un blablacar, c'est
moins,
pas le même stress pour un homme et pour une femme. Moi, ça m'est déjà arrivé. Je me suis pas posé une seconde la question de, je monte avec Bernard ou Nicolas. Et je m'en fiche complètement. Quand ma copine monte dans un blablacar, elle m'envoie la plaque, le profil, je peux la tracer en direct. Bah oui, mais elle c'est des questions, des réflexes qu'une femme doit avoir. Si ça peut enlever cette charge mentale de se dire, je vais pas être en danger quand je monte dans la voiture.
Moi, quand je monte dans le métro ou dans le RER, j'ai beaucoup plus peur, quelque part, que quand je monte dans un VTC. Hein, je le dis très clairement. Hein.
Oui.
Voilà. Et quelle que soit l'heure de la journée, hein, je le prends jamais le soir. De toute manière, ça, c'est une règle. Mais voilà, c'est par définition des espaces aujourd'hui qui ne sont pas sécures.
Dans un instant, dans Estelle Midi, on va parler de Gabriel Attal. Gabriel Attal qui se dit favorable à la GPA, la gestation pour autrui. Est-ce qu'il faut ouvrir le débat ou est-ce que pour vous la GPA, c'est-à-dire les mères porteuses, est-ce que c'est tabou? On en parle ensemble dans un instant. Dans Estelle Midi, appelez-nous. 32-16, à tout de suite.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
Il est 13h26, vous êtes sur RMC, RMC Story, dans Estelle Midi avec Charles Magnin, Juliette Brien, Yael Mellul et Pierre Rondeau. Et on va tout de suite poursuivre Estelle Midi avec la prise de position du jour. Et c'est celle de l'ancien Premier ministre et candidat à la présidentielle, Gabriel Attal, qui s'est dit hier favorable à l'ouverture d'un débat autour de la GPA, la gestation pour autrui, une légalisation des mères porteuses, à laquelle Maud Bréjon, la porte-parole du gouvernement, est farouchement contre. Écoutez.
Un point sur lequel, s'il est confirmé, je suis en total désaccord. Je pense que ça va à l'encontre du féminisme que l'on doit porter en 2026. Je crois que le corps des femmes ne peut pas être mis à disposition. La maternité, la parentalité, c'est quelque chose de très personnel et je ne comprends pas dans quel cadre on imagine pouvoir mettre à disposition le ventre des femmes.
Alors aujourd'hui, Charles, avoir recours à une mère porteuse est strictement interdit en France, mais de nombreux couples n'hésitent pas à partir à l'étranger pour pouvoir y accéder, moyennant argent.
On estime que chaque année en France, 200 à 300 enfants naissent des suites de GPA réalisées à l'étranger. La GPA, la gestation pour autrui, on va le rappeler, consiste pour une femme à porter un enfant pour un autre couple ou une autre personne avec remise de l'enfant après la naissance. Selon les cas, les parents d'intention, comme on les appelle, peuvent avoir un lien génétique partiel ou pas avec l'enfant. Mais en France, la loi est très claire. La femme qui accouche est considérée comme la mère légale d'un enfant et le corps humain ne peut pas faire l'objet d'un contrat. Mais la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme a conduit la France à reconnaître la filiation des enfants nés par GPA à l'étranger. Autrement dit, ces enfants aujourd'hui sont juridiquement reconnus comme les enfants de leurs parents en France. Ce qui est au cœur des débats, c'est la marchandisation du corps humain. Aux États-Unis, certains États, comme la Californie, autorisent des contrats qui prévoient parfois une forte rémunération, mais aussi l'alimentation, l'activité sportive et même sexuelle de la mère porteuse. D'autres pays mettent en avant ce qu'on appelle des GPA altruistes. Hein, les mères porteuses ne seraient pas rémunérées, seuls leurs frais médicaux et tous les frais liés à leur grossesse sont pris en charge, ce qui enlève en théorie l'aspect financier de la GPA, mais ne lève pas toutes les questions éthiques.
Alors, doit-on ouvrir le débat autour de la GPA, la gestation pour autrui, Juliette Briens?
Alors déjà, pour répondre littéralement à votre question, doit-on ouvrir le débat? Moi, je pense que le débat est toujours sain et démocratique. Il ne faut pas avoir peur de la démocratie et de l'opposition d'idées différentes. Après, moi, à titre personnel, je suis violemment contre la GPA. Je trouve que c'est moralement extrêmement répréhensible sur plusieurs points. Alors, je sais que l'argument le plus mis en avant, c'est la marchandisation du corps de la femme. Je sais pas que je suis contre cet argument parce que effectivement il y a une notion de consentement pour la femme porteuse, mais ce consentement il est toujours un peu flou. Vous savez, c'est un peu comme la prostitution où on dit oui mais la femme elle est consentante si elle est bien comme ça, etc. La 90% des femmes qui se prostituent, elles le font évidemment parce qu'elles n'ont pas d'autre choix et donc par la contrainte de la vie, de devoir quand t'as des enfants ou etc. La GPA, si tu t'intéresses de près à la GPA, que ce soit au Canada ou aux États-Unis qui sont quand même des pays qui ont tenté de mettre des GPA qu'on appelle éthiques, vous avez évidemment des centaines de témoignages de femmes qui ont dit qu'elles l'ont fait parce qu'elles n'avaient pas le choix et qu'elles n'avaient pas pu voir à l'avance les conséquences psychologiques de porter un enfant pendant 9 mois et de se le faire arracher des bras à l'instant même où le bébé sort de son corps. C'est absolument dramatique. Et évidemment, moi, l'argument que j'aimerais qu'on mette le plus en avant, parce que pour moi, il est irréfutable, c'est l'argument du droit de l'enfant, qui est totalement absent. Là, pour le coup, le consentement de l'enfant à naître est complètement absent de ce processus. C'est-à-dire que pour l'enfant, il a aussi, lui, passé 9 mois dans le ventre d'une femme qui jusqu'à ce que on lui dise le contraire et sa mère en fait et un bébé et un fœtus oui, ça ressent des choses
c'est complètement lunaire de un enfant ne consent pas à ses parents
attendez il y a une question dans la vie de fatalité. Alors voilà, t'as un enfant né de deux parents alcooliques qui se fait abandonner, il se fait adopter, il a pas consenti, mais je veux dire on n'a pas organisé institutionnellement son abandon. Scientifiquement, on n'a pas manipulé la nature pour faire en sorte que ce couple d'alcooliques crée un enfant. Mais là, c'est une fatalité face à laquelle on doit répondre par le moindre mal. Donc on va essayer de lui donner la vie la plus belle possible en le faisant adopter, en lui donnant une bonne famille. Là ça n'a rien à voir. Le gamin, il est marchandé. On prend l'enfant des bras de la mère qui vient d'accoucher, on va dans une autre salle et on les fout dans les bras de
la mère porteuse.
C'est insupportable. Mais je trouve que c'est
pour toi.
Et je veux dire,
mais après il y a plein de qui ont envie d'avoir des enfants qui ne peuvent pas avoir.
Mais
ils
adoptent. Mais c'est très
triste.
Ce n'est pas un bon argument, Estelle. Il y a beaucoup d'injustices dans le monde. Juste un truc. En général, je fais confiance à mon instinct sur ce sujet parce que je me mets toujours. Je me remets toujours en question sur ces sujets. J'ai regardé énormément de documentaires sur la GPA. Je me suis beaucoup informée sur la GPA. À chaque fois que je suis tout un processus de GPA télévisé par exemple, c'est tout mon corps qui se met en ébullition. Les drapeaux rouges sont là en fait. Mon instinct me dit, moralement, il y a un truc qui va pas, ça ne va pas. Faites-vous confiance. Si vous réagissez comme ça à la GPA, c'est que finalement, ça n'a pas lieu d'être.
Non, mais je suis désolée, après, Juliette, tu mets ton instinct. Moi, je peux te dire que je connais vraiment.
On connaît tous les histoires qui se terminent bien.
Mais il y a aussi beaucoup d'histoires qui se terminent mal. Excuse-moi, autour de moi, j'ai quelques couples qui ont eu recours à la GPA. Les enfants sont très heureux avec un recul de 10, 15,
ça n'est pas
20
un
ans.
Bon argument.
Mais le tien non plus, c'est pas parce que ton instinct te dit que
et de toute façon sur les grands principes les cas heureux ne viennent pas démonter l'argument des grands principes qui est fait qu'on ne marchandise pas un enfant dès le jour 1 de sa naissance. Mais c'est pas l'instinct, c'est les principes de la vie, de la morale.
Mais non, c'est la morale. morale c'est... Bah oui, ton instinct.
Voilà. Mais c'est les deux.
On se met
c'est les deux.
Juliette,
ils c'est pas pareil.
Juliette, Juliette, c'est tu as commencé en disant qu'il fallait ouvrir le débat pour la démocratie. C'est ton argument et c'est ton instinct.
Et je le défends avec conviction.
C'est l'instinct des et c'est l'instinct des selles.
Moi, j'ai pas d'instinct sur ce débat.
C'est tes connaissances. Ce sont tes connaissances opposées à celles des autres.
T'as pas été là pendant la transaction. T'as reculé 10 ans après. C'est pour ça que t'as pas été dans la salle d'accouchement quand on prend le gosse et qu'on le fout dans le ventre.
Juste quand tu parles d'instinct, je te dis voilà, il y a des. Mais en fait, mais ça n'a pas lieu d'être. C'est pas
200 000 euros. Merci, au revoir. Mais tu le vois plus jamais.
Mais c'est pas c'est horrible.
Oui, il y a aussi le désir.
Mais vous voulez pas que ce soit ça. Mais
attends, attends, Juliette. Vas-y. Il y a tes arguments, respecte aussi les nôtres qui sont opposés aux tiens. Mais on va pas considérer que tu as raison et nous avons de fait tort. Là, nos arguments, et en l'occurrence ceux d'Estelle, c'est qu'elle connaît aussi des gens qui sont passés par la GPA, qui avaient un désir d'enfant. Et on parle pas comme ça d'une espèce de contrainte imposée à un enfant qui, déjà, parler d'enfant dans le corps de la mère, ça serait aussi porter atteinte ou remettre en cause le droit à l'avortement en disant ça. Donc c'est un autre sujet, mais c'est pour pas aller vers là. Sur ce désir d'enfant, pourquoi tu irais l'opposer au consentement d'une personne qui n'est pas encore née?
Désir d'enfant n'est pas un droit. Tout le monde veut des enfants.
Ça ne pourrait pas l'être.
C'est pas
pourquoi
un droit.
Pourquoi un
parce
couple
que c'est
homosexuel
pas, parce que c'est pas
pourquoi
juste
un
pour
couple
l'enfant.
Homosexuel ne pourrait pas avoir d'enfant.
Mais c'est pas une question. Un homosexuel peut avoir un enfant de manière naturelle.
La GPA, c'est pas que les homosexuels.
C'est aussi beaucoup de gens qui sont simplement stériles. Donc ça n'a rien à voir avec l'homosexualité.
Il y a la stérilité, il y a les couples homosexuels, il y a plein de cas particuliers. Il y a des femmes célibataires, il y a des hommes célibataires, il y a plein de personnes qui ont un désir d'enfant. Dès lors qu'il y a un échange. Et c'est pour ça qu'on met en avant, on oppose. Et vous citez le cas américain. Le cas américain, effectivement, on est dans une marchandisation, une contractualisation de la GPA où on va comme ça monnayer, échanger. On va prendre une mère porteuse qui aura tel niveau de QI, qui aura tel poids, telle corpulence pour pouvoir avoir un enfant parfait. Le cadre israélien, par exemple, là vous aimez pas le terme, la GPA éthique, altruiste. Dans le cadre israélien, il n'y a pas cette marchandisation. Il y a le désir et aussi le don de la mère porteuse à permettre à ce que des parents, enfin, en tout cas des futurs parents, des gens qui ont un désir d'enfant, puissent le réaliser. Et on n'est pas dans une monétisation, on n'est pas dans une prime, on n'est pas dans une rémunération, on est vraiment sur un don de soi. La mère porteuse va donner de façon altruiste ce droit et ce devoir et ce désir d'enfant. Et pourquoi on y serait opposé?
Il n'y a pas de droit, il n'y a pas de devoir d'enfant.
Pourquoi il n'y aurait pas de
Yael Mellul, donc ça va être intéressant, Yael, parce que vous êtes avocate, donc forcément, il y a aussi quelque chose de légal autour de la GPA.
Et en plus, c'est un sujet qui me passionne particulièrement, sur lequel j'ai beaucoup travaillé ces 20 dernières années, en tant que, à la fois, professionnelle du droit et féministe. Et pour moi, je suis très radicale sur ce sujet. Il ne peut pas y avoir de débat, en réalité.
Ah, d'accord.
Voilà,
d'accord.
C'est un de ces sujets sur lesquels il ne peut pas y avoir de débat, comme par exemple la polygamie. On ne va pas commencer à se dire, est-ce qu'on va réfléchir sur l'autorisation de la polygamie, parce qu'il y a certains couples ici Mais si, parce que si vous voulez, il y a des principes qui sont intouchables en réalité. Voilà. Et on n'est pas dans la morale, on n'est pas dans l'éthique, on est dans la loi. Et ce principe, c'est un des piliers, en fait, de notre état de droit. C'est le principe d'inviolabilité du corps humain. C'est-à-dire que le corps humain ne peut pas faire l'objet d'un contrat. Ce n'est pas une marchandise. Voilà. On ne peut pas louer l'utérus d'une femme de la même manière qu'on ne peut pas acheter un enfant.
Mais une femme est responsable de son corps.
Mais ça n'a rien à voir. D'ailleurs, ça veut rien dire, en fait. On est responsable de son corps.
Normalement, vous avez le droit de faire ce que vous voulez de votre corps.
Mais c'est pas parce qu'on peut consentir à quelque chose que c'est moral.
Mon choix, ça n'a rien à voir avec le fait qu'on. Il n'y a aucune femme qui n'acceptera consciemment, en toute liberté, de donner son ventre pour, au final, être dépossédée de son enfant. Voilà. De la même manière que très souvent on fait le parallèle entre la GPA et les dons d'organes. On dit on donne bien des reins. Enfin, je veux dire, le don d'organes, c'est quelque chose qui répond à un besoin vital. Voilà. Et on va pas se réapproprier après l'organe. Alors qu'une fois qu'on a donné l'enfant,
Qu'est-ce que tu réponds à ceux qui vont te dire, et ils sont nombreux quand même, les parents qui ont recours à la GPA et qui disent, moi mes enfants, ils sont parfaitement heureux. tout se passe très bien et il y a aucun souci et on est encore souvent en relation avec avec la mère porteuse.
Alors je vais leur répondre que la vie est longue et que souvent les problèmes psychologiques voire psychiatriques des enfants arrivent vers 20-30 ans. Il y a beaucoup d'études qui ont été faites sur ces sujets. De la même manière que je peux aussi rappeler qu'il y a très souvent par exemple des enfants qui sont nés avec une anomalie. Je veux parler par exemple de trisomie et qui ont été refusés. Alors
normalement
parents.
La trisomie, excuse-moi, voilà. Elle est aujourd'hui. Voilà.
Enfin, non mais ça, je veux dire, c'est pas
les vues de synthèse. Il y a des possibilités.
Oui, mais parfois voilà, ça passe au travers. Il y a, je veux dire, l'enfant, le bébé qui vient de naître, le nourrisson, ne convient pas aux parents. Il est refusé.
Ce n'est pas arrivé une fois.
C'est arrivé plein de fois. Et les problèmes psychologiques des enfants qui sont issus de GPA, c'est quelque chose qui est documenté. Hein. Voilà, ouais, c'est pas. Documenté. Ça ne vient pas à 15 ans, ça ne vient pas à 20 ans, ça peut venir plus tard. Il y a parfois un besoin d'aller renouveler.
Mais tout comme des enfants, à 40 ans, est-ce que c'est forcément de la faute de la GPA?
Et tout comme des enfants qui ne sont pas issus de GPA aujourd'hui.
Oui.
Dieu sait qu'on a fait ce débat et vous avez beaucoup réagi, Yael, sur la détresse psychologique aujourd'hui des adolescents. Ouais. Ce n'est pas que les adolescents de GPA. Aujourd'hui, il y a une détresse psychologique. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire, la personne, le gamin est en détresse psychologique parce qu'il est issu d'une GPA? C'est ça que je veux dire. Après,
il va
au moins ouvrir le débat.
Pour moi, je trouve ça très dangereux ce que fait Gabriel Attal, mais en même temps, c'est quelque chose qui fait de manière assez récurrente. C'est pas la première fois qu'il parle de GPA. Hein.
Oui. Mais parce que manifestement,
pour moi, c'est une fenêtre. Et c'est une fenêtre d'Overton qui. Parce qu'il veut certainement y avoir recours avec son conjoint.
Non, mais c'est facile de dire ça.
Et alors?
Mais
c'est lui qui l'a dit qu'il voulait fonder une famille dans le reportage qu'il y a eu dans Paris Match.
Ça pourrait être n'importe qui. C'est pas Gabriel Attal qui lance. C'est un vrai débat de société.
Il y a un débat aussi de fond que souligne Eric qui nous dit c'est quand même un problème de riches, c'est réservé à des CSP très très plus. Il nous dit en fait quelque part aujourd'hui ce sont des femmes ou des hommes riches qui louent le ventre de femmes pauvres. Le jour où des femmes pauvres pourront louer le ventre des femmes riches et dans ce cas-là
la France elle s'honore de refuser la marchandisation du corps humain, en l'occurrence la location des utérus des femmes, et je salue vraiment la réaction de Maud Brejon qui a été absolument exemplaire, quitte à se mettre en désaccord total avec Gabriel Attal. Il faut le saluer.
Encore une fois, vous mélangez GPA avec marchandisation de la GPA. Le cas israélien, c'est pas marchandisé. Il y a des cas, par exemple, de sœurs. Une est stérile, l'autre portera l'enfant de sa sœur et c'est conscientisé, c'est assumé, c'est voulu, c'est désiré et c'est construit psychologiquement sainement. Et c'est pas juste j'ai loué mon utérus à 200 000 euros.
Je vois pas en quoi c'est sain qu'une sœur elle porte le... Je porte un jugement moral pour le coup. Et de la même manière qu'il y a des cas aussi à des mères qui portent l'enfant pour leur enfant. Enfin, qui deviennent.
Oui, parce qu'il y a des mères stériles.
On en vient à une désorganisation totale de ce qu'est la famille.
C'est une vision très française. C'est-à-dire, en lisant tous les papiers là-dessus ce matin, je voyais bien qu'il y a une vision très française de, en effet, la loi qui dit on ne marchande pas un corps, on ne peut pas louer son corps, mais que d'autres pays, Israël, mais notamment les pays anglo-saxons, les États-Unis, le Canada, où là-bas, la loi, c'est plutôt si la science le permet. Et libre à chacun ensuite de se saisir de la science. Et c'est vrai que beaucoup de lois en France et beaucoup de principes.
C'est ce qui est prôné par Elon Musk, par exemple.
Voilà, beaucoup de principes fondateurs du droit en France ont été émis avant même qu'on puisse imaginer la GPA. C'est-à-dire qu'aujourd'hui notre droit n'est pas forcément mis à jour et il est même hypocrite parce qu'aujourd'hui la loi française elle reconnaît ces enfants.
Absolument.
Et elle dit.
Parce qu'il n'y a pas le choix.
Ils sont là. De fait, il y a déjà des enfants nés de GPA. Il y en a des milliers.
C'est ça la normalité en fait. Oui, mais on la tolère.
Et aujourd'hui, on a aussi plus un problème d'infertilité qu'avant. Pourquoi? Parce que les femmes et les hommes font des enfants plus tard, parce qu'il y a des études plus longues, etc. Et aujourd'hui, effectivement, je ne dis pas que c'est bien ou que c'est pas bien, mais on a plus de problèmes d'infertilité. Il y a des couples qui vivent des situations absolument horribles parce qu'ils peuvent pas avoir d'enfants et c'est un crève-cœur. La science le permet aujourd'hui.
Il n'y a pas de droit à l'enfant.
Et dans certains pays, ça l'est. Donc en fait, on se retrouve avec des gens qui sont obligés d'aller pour un désir d'enfant aux États-Unis, d'aller loin, etc., d'avoir recours à quelque chose qui est illégal, alors que leur enfant sera reconnu en France et on pourrait peut-être avoir des parcours en France qui permettent ça de manière totalement légale et extrêmement encadrée, quoi, sans avoir besoin d'être dans l'illégalité. De toute façon, ils le feront quand même. Les gens qui aujourd'hui veulent un enfant,
c'est pas un bon argument non plus.
Ils le feront pas forcément parce que ça coûte très cher en fait.
Oui, mais ceux qui ont les moyens,
il y a que les moyens riches qui
pourront le faire. Oui, partir à l'étranger,
mais ceux qui ont les moyens vont le faire de toutes les manières, de manière illégale. Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas mieux l'encadrer pour ne pas discriminer aujourd'hui une personne riche ou une personne pauvre qui a un désir d'enfant
Ils adoptent, ils n'ont qu'à adopter.
Mais aujourd'hui,
on facilite,
les parcours d'adoption.
Ah ben voilà,
il y a plein d'enfants qui sont désœuvrés et qui demandent que ça.
Mais aujourd'hui, c'est très compliqué d'adopter en France. C'est même quasiment impossible.
Dirigeons nos efforts vers ça plutôt.
Ben
voilà.
Charles, on a plein de messages sur le WhatsApp et puis on a le résultat du sondage également.
Oui, on a Alexis qui nous dit laissons surtout les femmes décider de ce qu'elles font de leur corps. Si certains sont prêts à payer et que d'autres ont besoin de cet argent, mais ensuite il faut évidemment de la mise en garde, j'imagine beaucoup d'entretien, un suivi psychologique. Mais pourquoi interdire, renoncer à la science si elle le permet et si elle permet de rendre tout le monde heureux, y compris le couple de parents, mais aussi la femme en question qui prête son ventre à ce couple. Si tout le monde peut être heureux, pourquoi pas, nous dit Alexis. Beaucoup aussi de messages contre la GPA. Et quand on vous pose la question, c'est très intéressant sur nos réseaux. On vous a posé la question, GPA, doit-on ouvrir le débat? C'est un magnifique 50-50.
Wow.
C'est assez rare pour être souligné. Ouais. Ça donne un beau 50-50.
Mais ce qui veut dire que ça mérite peut-être un débat, justement.
Non, pour la moitié d'entre vous, ça ne mérite pas de débat.
Oui, bien
mais l'autre
sûr,
moitié
bien
veut
sûr.
Un débat.
Mais après, c'était passionnant. Donc,
c'est passionnant. C'est débat et pas de débat.
Exactement. Et si vous voulez réécouter ce débat, justement, que nous avons ouvert dans Estelle Midi, vous allez sur les podcasts rmc.fr, l'appli RMC et toutes les plateformes de téléchargement. Dans un instant, on va parler d'un boom assez étonnant. C'est celui de la cigarette chez les stars. On voit des stars en train de fumer sur les tapis rouges. La cigarette qui revient dans les films et les séries. Mais est-ce qu'il faut bannir la cigarette des films et des séries? On en parle avec vous dans un instant. Mais tout de suite, on joue sur RMC.
Eh oui, c'est le moment de vous inscrire. Vous le savez, il y a notre liste de cadeaux, les 26 cadeaux de la Coupe du Monde à remporter avec peut-être même 10 000 euros. Et puis les packs Coupe du Monde, des vidéos projecteurs, des maillots, des bleus, des ballons officiels. Pour jouer, vous envoyez liste par SMS au 732-16. Liste par SMS au 732-16. Vous avez 5 minutes pour vous inscrire. Et l'un ou l'une d'entre vous sera avec Estelle tout à l'heure pour remporter tous ces cadeaux. Donc dépêchez-vous. Liste au 732-16.
Et Estelle Midi revient dans un instant.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
Il est 13h50, vous êtes dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story. 13h50, vous le savez, c'est l'heure de Pierre-Antoine Damcourt, le répondeur, les meilleurs messages laissés au 32-16. Et Pierre-Antoine est en pont de la Pentecôte, lui, donc c'est un best-of aujourd'hui, c'est parti.
RMC, Estelle Midi.
Le répondeur de Pierre-Antoine Damcourt.
Bonjour, c'est Brigitte Macron. Je n'en peux plus là, c'est pas possible. Ça fait 12 heures qu'on est à Disneyland Paris et il veut pas rentrer. Emmanuel, on y va maintenant. Tu as conseil de guerre à l'Elysée dans 10 minutes. Ah ben voilà, il se roule par terre, il veut faire Space Mountain maintenant. Je n'en peux plus. Allez, non, on ne donnera pas la Légion d'honneur à Ratatouille. Allez, on y va.
Oh, pourquoi pas la Légion d'honneur à Ratatouille? On la donne à n'importe qui.
Ouais, allez, message suivant.
Oui, bonjour, commissaire Broussard de la brigade financière. Voilà, nous détenons monsieur Gims depuis maintenant 36 heures et vraiment l'interrogatoire est compliqué là, c'est pas lui qui va craquer, c'est nous, on n'en peut plus hein. Oui, monsieur Gims, qu'est-ce que vous voulez? Une avocate? Non, bah vous voulez quoi alors?
Moi, je veux une parisienne qui traverse
Mais qu'est-ce qu'il fait là? Vous faites quoi?
Je me tire, je m'entends ou pas, je suis pas descendu, mon tire.
C'est bien, il y a de l'ambiance en garde à vue. Allez, dernier message.
Ouais, bonjour Madame Denis, c'est Yann, je suis chauffeur-livreur et voilà, je suis désolé mais votre colis va avoir 72 heures de retard. Non, parce qu'avec les prix de l'essence, j'ai dû adapter mon moyen de locomotion, vous voyez. Ouh, tout doux, amazing, tout doux. Ouais, je sais, elles sont lourdes ces 12 caisses de Chablis. Mais on aura peut-être un petit pourboire. Allez,
Non, bah bravo. Et le bien-être animal, Estelle, 12 caisses de Chablis sur un cheval.
Bonjour Estelle, c'est toi Céline là. Je suis tellement contente de revenir à Paris pour chanter devant vous autres. Et ce qui me ferait drôlement plaisir, c'est que tu viennes me rejoindre sur la scène là et qu'on chante ensemble tes plus gros débats de l'émission en musique. On chanterait Vivre à la campagne, Enfer ou Paradis, ou Y a-t-il trop d'aide en France, ou encore un tube, Quiche Lorraine ou Pizza. Écoute ça, ma Estelle. Quiche Lorraine ou Pizza? Qu'est-ce que tu préfères, toi? Terrine ou bien foie gras? Gingembre ou Viagra? Fred Hermel saura. Allez, attache ton tuc, ma Estelle. Viens me rejoindre sur scène.
Ça serait pas mal, hein, vos
génial,
tubes.
Génial.
On va sortir une compilation, les
ouais,
tubes
d'Estelle Midi en
chanson. Mais j'en suis sûr. Allez, message suivant.
Bonjour Estelle, c'est Gisèle Pellicot. J'ai vu que vous alliez faire un débat dans un instant sur « Faut-il tout se dire dans un couple ?» Eh ben écoutez, visiblement non, voilà. Allez, je vous embrasse, j'adore votre émission Estelle Midi. D'ailleurs, heureusement que c'est pas Estelle Minuit, sinon je l'aurais pas vu souvent. Bisous, bisous.
Bisous Gisèle, un bon témoin quand même, peut-être pour votre prochain débat Estelle.
Je suis outrée.
Oh ouais, écoutez.
Je sais pas comment enchaîner.
Oui, bonjour, c'est Xavier Dupont de Ligonnès. Voilà, c'était pour vous annoncer que ça y est, j'ai pris une grande décision. Je suis actuellement au commissariat de Nantes, où j'ai décidé de me rendre.
Ah bon?
Mais non! Poisson d'avril! Ah, vous y avez cru! Oh là là! Oh, je suis fort! Oh, je suis bon! Allez, je vous laisse! La partie de cache-cache continue!
Oh, il est fort! Il m'a terrassé son poisson d'avril. Enfin, non, il m'a eu! Allez, on va chasser la dame.
Oui, bonjour, Emmanuel Grégoire, le maire de Paris. Il y a encore eu une plainte déposée pour des attouchements sexuels dans le périscolaire. Alors j'en appelle vraiment à la vigilance des parents et des enfants aussi, c'est important. Hein. D'ailleurs, petit conseil, n'oubliez pas les enfants, si la pâte à modeler durcit quand vous la pétrissez, ce n'est pas de la pâte à modeler. Voilà, allez, bonne journée.
Ah bon, c'est bien. Alors c'est bien Emmanuel Grégoire, les conseils, mais on veut des actes quand même, là, il faudrait agir, il est temps.
C'est horrible. Allez, message suivant.
Salut mes petits coquins, c'est Françoise, votre niçoise préférée. Bon, vous avez vu l'info là? Ils ont sorti des sucettes au goût pénis. Oh là là, bah faut pas que je goûte moi, sinon la Françoise elle va avoir des caries et en moins d'une semaine du diabète. Enfin du diabète. Oh là là, oh, je suis en forme.
Oh là là, bah elle nous avait pas manqué. Oui, non, des fois quand elle appelle pas pendant un moment, elle en a sous le capot là.
Oui, voilà. Allez, dernier message.
Tu aimes la chanson, le foot et la désillusion? Écoute l'album de la Squadra Azzurra avec sa reprise de Joe Dassin.
L'Amérique, l'Amérique, je vais la voir à la télé. Wow, wow.
Mais également une reprise de Benabar.
On s'en fout, on n'y va pas, nous on emmerde la FIFA. On commandera des pizzas, au moins on se blessera pas.
Inclut également les grands classiques de la chanson.
Arrête pas, Gigi, pas le péno. La Coupe du Monde, c'est comme un rêve que tu caresses.
Gigi, pas le péno. On embrasse très bien.
Pierre-Antoine Damcourt, tous les jours 13h50 dans Estelle Midi, de retour en direct demain et puis en podcast également, rmc.fr, l'appli RMC et toutes les plateformes de téléchargement. Dans un instant, on va parler du boom de la cigarette sur les écrans, les films, les séries. La cigarette est désormais partout. Est-ce qu'il faut bannir justement la cigarette de nos écrans et interdire la cigarette dans les films et les séries? On en parle avec vous dans un instant au 32-16 et sur le WhatsApp d'Estelle Midi.
424-424, on va lire toutes vos réactions en direct.
A tout de suite sur RMC.
RMC, midi 15h,
Estelle Midi.